Nous allons faire une lecture dans le livre de la Genèse et nous allons voir que Dieu va faire connaître à un de ses serviteurs son plan. C'est quelque chose qui est important, que Dieu nous révèle sa volonté. Genèse chapitre 18, verset 17. Nous allons connaître le plan de Dieu et comment un homme a réagi par rapport à ce plan. Ça peut nous enseigner beaucoup. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est beau? Est-ce que c'est bien? Dieu lui révèle que son plan est pour sa famille, la famille d'Abraham, et que ses enfants vont hériter de cette bénédiction. Il y a une bénédiction. Mais regardez la suite. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être de 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Il est têtu, Abraham. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Verset 15 du chapitre 19. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Amen. Retenez cette partie du verset 16 que je viens de lire avec vous, car l'Éternel voulait l'épargner. Vous gardez ce verset, s'il vous plaît, et vous venez avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 12. Si d'un côté Dieu voulait épargner Lot, regardez ce qui est écrit dans Romains au chapitre 8 et au verset 32. C'est bien de mettre ces deux versets ensemble, croyez-moi. Romains 8, 32, on peut lire à partir du verset 31, puisque c'est une question suivie d'une autre question. Dieu pose beaucoup de questions dans la Bible, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. C'est pour nous faire réfléchir et surtout pour qu'on y réponde. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, regardez bien, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Deux textes. Un qui nous dit que Dieu n'a pas épargné son fils, et un texte où il nous est dit que Dieu voulait épargner Lot du jugement qui allait venir sur cette ville à cause du péché. Tout ça a été écrit, et Jésus en parle dans les prophéties du Nouveau Testament. Il dit qu'il en sera de la même manière. Que la méchanceté des hommes devenant de plus en plus grande, cela va attirer la colère de Dieu. Alors que nous avons un Dieu plein d'amour. Est-ce que Dieu est plein d'amour? Est-ce que Dieu est plein de miséricorde? Ah ouais? Est-ce que Dieu est plein de pardon? Est-ce que Dieu peut pardonner cet après-midi? Qui c'est qui peut pardonner? N'importe quel pécheur? Est-ce que Dieu peut pardonner tous les péchés? Ah ouais? C'est écrit, tout péché et tout blasphème sera pardonné. Alors il y a un psaume, tiens on va le lire un peu, parce que quand même dans ce psaume ça fait ressortir cette pensée que Dieu voulait épargner Lot, mais Dieu ne voulait pas épargner que Lot. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors il y a une question que Dieu pose dans le psaume 8. Dans le psaume 8, la chorale en a fait un cantique il y a 2 ans, je crois, ou 3, de ce psaume. C'est dommage que la chorale ne soit pas là, elle aurait pu le chanter. Psaume 8, c'est une question que beaucoup d'hommes ont dû se poser. Verset 4. Psaume 8, verset 4. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? » Qu'est-ce qu'un homme pour que Dieu se souvienne de lui ? Oui, qu'est-ce qu'un homme ? Est-ce que Dieu peut se souvenir d'un homme ? Est-ce que Dieu peut s'intéresser à un homme ? Dieu s'intéresse à vous. Vous le savez? Peut-être que vous ne le saviez pas. Je ne sais pas si Lot s'intéressait à Dieu. Je ne sais pas. La façon dont il se comportait me laisse penser que Lot ne s'intéressait pas beaucoup à Dieu. Mais Dieu, lui, il voulait le sauver. Je ne sais pas si Lot aimait Dieu, mais le fait que Dieu veuille épargner Lot nous prouve que Dieu voulait, lui, le sauver. Et il en est de même pour chacun de nous. Les gens ne s'intéressent pas à Dieu. Vous leur parlez de Dieu, ils se moquent de vous. C'est pas vrai? Vous leur parlez du Seigneur, que Dieu, oh, ça ne m'intéresse pas, tout ça c'est des âneries. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Il continue à vouloir manifester son amour et son pardon. Et cette question, vous êtes en droit de vous la poser, elle est dans la Bible. C'est une question, mais qui je suis pour que Dieu s'intéresse à moi? Qui je suis pour que Dieu se souvienne de moi? Alors les gens, ils ne cherchent pas Dieu. La Bible dit que les gens ne se soucient pas de connaître Dieu. Par contre, ils vont consulter les astrologues pour connaître l'avenir. Des milliards sont dépensés chaque année pour essayer de savoir s'il est possible de connaître l'avenir. Ils cherchent dans les horoscopes. Il y a des journaux qui ont eu des procès parce qu'ils avaient oublié de mettre, vous savez, dernière page, l'horoscope, pour vous dire combien les gens sont dépendants de ces choses. Ils pensent qu'une étoile peut les bénir. Eh oui. On entend des fois les gens dire « Je suis né sous une mauvaise étoile ». On entend ça. Vous voyez, comme quoi les gens, on leur parle de Dieu. Non, 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 non. Un Dieu vivant, on n'en veut pas. Oui, qu'une étoile puisse me conduire. De quel signe vous êtes? Ah, t'es de tel signe. Hein? Et toi? Hein? Alors les gens, vous voyez, ils s'imaginent qu'il y a un signe qui peut leur apporter telle chose. Ou non, mais franchement, on en arrive à des choses incroyables. Dieu n'a pas placé dans les étoiles dans le ciel pour que l'on connaisse l'avenir. Dieu a placé les étoiles dans le ciel pour éclairer la nuit. Est-ce que vous savez que les étoiles nous éclairent? Un peu, non? Ah oui. Est-ce que c'est écrit? Bon, donc c'est vrai. Ouais. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle. Moi, je vais vous dire quand est-ce qu'il vous faut être né pour être béni. Je suis un grand spécialiste. Pardon? Entre le 1er janvier et le 31 décembre. Voilà, c'est le signe de la grâce. C'est pas vrai? Est-ce que quelqu'un qui est né entre le 1er janvier et le 31 décembre peut être béni? Ben oui, parce que depuis que Jésus-Christ est mort, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et je crois que c'est important de savoir que, quelle que soit notre éducation, quel que soit ce que nous avons pu vivre, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et nous avons un Dieu qui veut nous bénir. Cet après-midi, croyez-vous que Dieu peut vous bénir? Vous avez vu comment Dieu voulait bénir Lot? Vous avez vu comment Dieu s'intéressait à cet homme? Il n'y a pas besoin de savoir ce que disent les devins, ce que disent les astrologues. Quand on voit que parfois même des chrétiens se laisseraient piéger par ces choses, c'est bien la preuve qu'ils ne connaissent pas le Dieu vivant qui dénonce ces choses et qui les condamne comme étant une abomination devant Dieu. C'est une abomination de consulter des voyants, d'aller voir des diseuses de Bonaventure, de chercher à faire du spiritisme. Moi, j'ai connu un gars qui a commencé, vous savez, à aller voir une voyante, et puis il a été complètement oppressé par la puissance de l'ennemi, parce qu'il en est arrivé à faire du spiritisme, et c'est un homme aujourd'hui qui est perturbé, complètement malheureux. Oui, Dieu se préoccupe de votre destin, parce que votre destinée, elle est éternelle. Vous croyez-vous que quand vous allez mourir, vous allez être dans une fosse et que tout va être dans le néant? Non. Dieu s'intéresse à votre vie. Et Dieu est capable de faire énormément de choses pour vous sauver. Quand on voit comment cet homme a été arraché du jugement qui allait venir. Moi, je crois, sans être pessimiste, que le jugement va venir sur la terre. Vous avez lu les prophéties. Vous savez combien le monde va droit vers la colère de Dieu. Et heureusement qu'il y a des hommes comme Abraham qui prient. Vous avez vu la prière de cet homme? Vous avez vu quand même, c'est dans la Bible, c'est étonnant. Vous auriez osé vous contester? C'est la preuve qu'Abraham connaissait bien le Seigneur et qu'il pouvait débattre avec le Seigneur. C'est extraordinaire cette façon dont il a insisté pour que Dieu manifeste sa miséricorde. Et vous voyez, dans cette ville immense, il n'y avait même pas 10 chrétiens. Ça ne fait pas pitié? Même pas 10 chrétiens. Que Lot et sa famille n'aient pas réussi à composer un groupe de 10 croyants dans cette ville. S'il y avait eu 10 justes, la ville aurait été épargnée. C'est pour ça qu'il faut prier. Et Abraham, il connaît la puissance de l'intercession. Et Dieu nous a laissé ce texte pour nous montrer comme il ne faut pas arrêter de prier. Seigneur, sauve. Parce que c'est vrai qu'Abraham, il savait ce qu'il faisait. En priant pour la bénédiction de Sodome, il priait pour que son neveu soit gardé. C'est pour ça qu'il faut que la maison du Seigneur soit une maison de prière. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la maison du Seigneur soit une maison de prière? Pour qu'on intercède, pour qu'on demande à Dieu de sauver nos neveux et nièces? Il ne l'a pas fait, Abraham? Est-ce que ça a payé? Oui, pourtant, l'autre, ce n'était pas le meilleur croyant de l'époque. Vous êtes d'accord avec moi? C'est triste et en même temps, c'est très encourageant. Parce que même quelqu'un comme Lot, quand on voit comment il s'est comporté, même après avoir été sauvé, on voit que Dieu nous aime, quel que soit l'état de notre péché. Oui, Dieu est tellement puissant qu'il est capable de faire des choses extraordinaires pour sauver quelqu'un de notre famille. Et ça, moi, ça me rassure. De voir comment Dieu s'y est pris pour sauver ce neveu, hein, le neveu d'Abraham, comment Dieu s'y est pris, et ses deux filles, même si elles aussi, elles n'étaient pas dans la plus grande spiritualité, il n'empêche que Dieu les a épargnées. Oui, Dieu se souvient de vous. Est-ce que vous savez que Dieu pense à vous? Vous le croyez? C'est écrit. C'est écrit que Dieu pense à nous. Dieu se souvient de nous. Il sait si cet après-midi vous êtes découragé, si vous êtes désappointé par une épreuve, il sait si vous êtes en train de vivre des luttes, des combats, si vous êtes malade, justement si vous souffrez à cause du salut d'une personne. Il le sait et il veut intervenir. Comme on l'a vu ce matin, nous avons affaire à un Dieu vivant. Il faut le comprendre. Notre réunion n'aurait aucun sens si nous ne réalisons pas que Dieu est vivant, qu'il veut intervenir et qu'il veut se manifester. Voilà, vous l'avez lu avec moi, Dieu voulait l'épargner. Dieu voulait l'épargner. Et je voudrais vous parler à vous qui êtes chrétiens, Dieu veut épargner les membres de votre famille. Vous entendez? Il y a des gens dans votre famille qui sont perdus? Il y a des gens dans votre famille qui ne sont pas encore au Seigneur? Des neveux, des nièces, des frères, des sœurs, des enfants? Est-ce qu'il y en a parmi nous? Dieu veut les épargner. Ne vous lassez pas de prier pour eux. Ne vous lassez pas. Serait-il pire que l'autre? Serait-il pire que ces deux filles? Vous devez dire, Seigneur, épargne mes enfants. épargne mes neveux, épargne mon frère, épargne ma sœur. Ne vous lassez pas de faire cette prière. C'est grâce à la prière d'Abraham que Dieu a pu diriger des anges pour sortir. Vous avez vu, il a fallu que les anges même le forcent et le prennent par la main pour le sortir. C'est terrible ça quand même. Est-ce que Dieu peut le refaire aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut diriger des choses d'une manière extraordinaire? Oui, c'est pour ça mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, vous qui êtes là cet après-midi, ne vous lassez pas d'intercéder pour les membres de votre famille qui sont encore vivants. Sachez que Dieu a le pouvoir de les épargner, même s'ils n'ont pas fait des progrès. Sodome et Gomorre. Dès qu'on parle de Sodome et Gomorre, ça nous parle du péché sous ses plus hautes formes. C'est pas vrai? Dès qu'on parle de Sodome et Gomorre, ça nous enseigne des choses lamentables. Oui, mais je vais vous dire, moi je crois, je ne sais pas tout ce qui se passe et je ne veux pas le savoir, et ça ne m'intéresse même pas, mais je crois que nous avons dépassé le péché de ces villes. Quand vous entendez le peu que vous entendez parfois, moi je crois que notre société a dépassé le péché de Sodome et Gomorre. Et que la Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors c'est vrai qu'on entend de plus en plus, mais non, Dieu est un Dieu d'amour, il ne peut pas nous vouloir du mal, Dieu est un Dieu plein de miséricorde. Et j'insiste, Dieu est plein d'amour, Dieu est plein de miséricorde. Mais il n'empêche que le péché attire le jugement de Dieu. Et qu'il faut que vous vous rendiez à l'évidence que si vous n'êtes pas sous la grâce de Dieu, si vous n'êtes pas dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sous le poids de la colère divine. Vous ne pouvez pas dire, mais non, mais moi je, ni Dieu, ni diable. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes dans les ténèbres. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes sous le poids de la colère divine. Alors je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes comme Lot. Si vous avez fait des choix qui vous ont éloigné de Dieu, combien d'hommes et de femmes ont fait des choix qui les ont éloignés de Dieu? Ah non, moi je vais là, je vais dans cette ville où il n'y a pas d'église, mais tant pis. Combien de gens ont fait des choix qui les ont éloignés de Dieu? D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, si un jour vous partez, n'allez pas travailler loin d'une ville où il n'y a pas d'église. Beaucoup de gens l'ont fait, et croyez-moi, ils l'ont regretté. Oui, Lot était un homme qui ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Mais Dieu l'aimait. Et je crois que Dieu, il aime notre ville de Toulouse. Vous le croyez que Dieu aime Toulouse? Dieu aime les habitants de cette ville. Il était gentil, Lot. Partout où tonton Abraham marchait, il suivait. Il a suivi tonton tout le temps. Et le jour où les troupeaux ont prospéré, le jour où les pâturages n'étaient pas assez grands pour nourrir ces immenses troupeaux, il a fallu qu'ils se séparent. Et quand ils se sont séparés, c'est là que cet homme a abandonné le Seigneur. Oui, Dieu voulait épargner Lot. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, Dieu veut épargner vos enfants. Ne vous arrêtez pas de prier pour eux. Et ne dites pas, mais t'as vu comment il est tombé, t'as vu comment il est bas tombé, t'as vu ce qu'il fait, mais il est pire que les païens. Dieu veut épargner les gens pour qui vous priez. Dieu n'a pas épargné Saul de Tarse? Et que n'en a-t-il pas fait, hein? Un homme formidable. Oui, Dieu veut épargner vos enfants. Je vous le dis parce que je l'ai eu à cœur. Hier, quand j'ai prié, ce verset s'est imposé à mon cœur. Dieu voulait l'épargner. Et je sentais dans mon cœur qu'il me fallait insister avec ce verset pour vous encourager à ne pas vous décourager, à vous lasser. Mais ça fait 20 ans que je prie pour mon fils, ça fait 25 ans que je prie pour ma fille, pour mon neveu, et il fait qu'empirer. Vous avez jamais remarqué, des fois on prie pour des gens, et à la place de s'arranger, c'est pas le cas. Je crois que Dieu est au-dessus de tout cela, et qu'il peut intervenir. Oui, Dieu est juste dans toutes ses voies. Et Dieu sait comment faire pour sauver le cœur de quelqu'un. Je pense qu'avant l'enlèvement de l'Église, il se passera beaucoup de choses comme ça. Que Dieu honorera la prière de chrétiens qui, d'une manière fervente, comme Abraham, mais non, mais Seigneur, s'il te plaît, interviens, même s'il n'y a pas beaucoup de chrétiens à Toulouse, Seigneur, sauve-en quelques-uns, sauve-en une poignée. C'est Paul qui dit qu'il travaille même pour en sauver quelques-uns. Alors, bien sûr que nous, on aimerait qu'il y en ait beaucoup,
Très beaucoup de gens sauvés. C'est pas vrai? Mais Seigneur, au moins quelques-uns, que ces réunions du mois d'août permettent que quelques-uns soient sauvés, que quelques-uns reviennent à Dieu. Oui, nous sommes dans un monde aussi pervers que Sodome et Gomorre. Notre ville de Toulouse est, je crois, la première ou la deuxième ville homosexuelle de France. Mais bien sûr, mais Dieu aime malgré tout notre ville. Mais c'est vrai que même si le jugement va venir, avant que la porte ne se ferme, il veut sauver. Je pense aux contemporains de Lot qui entendaient la construction de cette arche. Combien ont dû regretter de ne pas monter dans l'arche. Sérieusement, les voisins les plus proches, ils devaient quand même se dire, mais qu'est-ce que c'est ce type? Qu'est-ce que c'est ce truc? Vous ne croyez pas que c'est bizarre? Il y en a qui ont dû regretter, croyez-moi. Croyez-moi. Peut-être que certaines femmes ont dit à leur mari, mais on devrait peut-être en tenir compte. Oh, arrête, t'es folle, tu n'as pas commencé à penser. Vous savez, c'est combien ont dû penser comme ça? Combien ont dû regretter? Je crois que dans la vie, il faut être sérieux. Dans la vie, il faut savoir quand Dieu nous tend la main. On a chanté, cantique, hein, et maintenant saisis la main de ton Sauveur. Là, il a fallu que les anges insistent pour les sortir de la ville. Et je crois que Dieu est capable d'insister dans votre cœur cet après-midi et de vous dire, il est temps de que tu saisisses la main du Seigneur. Quand Dieu insiste, c'est que c'est important. Si le Seigneur vous dit cet après-midi, mais donne-moi ton cœur. J'insiste, j'ai dirigé les circonstances pour que tu puisses être ici cet après-midi. J'ai dirigé les circonstances pour que tu puisses écouter ma voix, pour que tu puisses entendre que sur le bois de la croix, j'ai payé pour que tu puisses te préparer à me rencontrer. Car Dieu pourrait dire à quelqu'un, tu seras bientôt avec moi. Oui ou non? Est-ce que Dieu pourrait le dire à quelqu'un? Eh ouais. Vous ne savez pas, votre vie ne vous appartient pas. Vous êtes malade, mais peut-être que vous allez vivre 20 ans. Vous êtes en bonne santé, mais peut-être que Dieu peut vous reprendre demain. Et je dis ça, pourquoi? Parce que c'est la vérité, c'est la vie de tous les jours. Dieu parfois insiste. Vous l'avez vu ce verset? On le relit? Quand même, c'est important. Vous voyez? Genèse 19, verset 15. Je ne sais pas, il a affaire à des anges et encore, il résiste. Si un ange venait vous voir et qui vous dit « Sors de la maison parce qu'elle va s'écrouler. Vous attendriez de moi pour sortir ?» Mais comme quoi l'homme est dur quand même. Hein? Genèse 19, 15. « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme, tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Parce que le jugement allait tomber, le feu allait tomber. Et à un moment donné, et on peut dire, Seigneur, retarde le jugement. C'est vrai qu'il est dit que Dieu tarde, c'est écrit. Il tarde, pourquoi? Parce qu'il veut que les gens soient sauvés. Mais il ne pourra pas tarder indéfiniment. Et un jour, l'heure va véritablement sonner. Il y a des gens qui ont joué avec leur âme. Il y a des gens qui disent, j'attends. Et ils n'ont pas compris qu'en même temps, leur cœur s'endurcissait. Et quand ils auraient pu donner leur cœur au Seigneur, ils n'ont plus cru au pardon. C'est pour ça qu'on voit des gens, ils attendent, et puis après quand vous leur parlez, ils n'y croient plus. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu nous a prévenus. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Les gens disent, mais moi j'attends, je suis jeune, je me convertirai quand je serai vieux. Ça tient debout, mais ça ne tient pas compte de cette vérité que chaque fois que Dieu nous parle et qu'on n'obéit pas, notre cœur s'endurcit et qu'on va finir par s'éloigner et ne plus croire au pardon de Dieu. Et nous avons tous discuté avec des gens qui avaient connu Dieu, qui ont rétrogradé, et les années ont passé, et quand vous avez parlé de l'amour de Dieu, ils n'ont plus cru au pardon et ils sont morts dans leur péché. Que c'est dommage. Oui, Dieu voulait épargner cet homme qui ne pensait qu'à lui, qui ne pensait qu'à prospérer quand il a fallu choisir, c'était pas lui à choisir. Et il a choisi. Dieu l'a testé par la bouche d'Abraham. Parce que il aurait dû dire à son nom, écoute, c'est toi le plus âgé, c'est à toi de choisir. Et il a choisi la vallée verte, la vallée riche, prospère. Et ça lui a pas valu beaucoup. Vous savez, il faut faire attention quand on fait des choix. Il faut choisir toujours quelque chose qui nous gardera près du Seigneur. Il y a des gens, ils ont voulu s'enrichir. La Bible dit que certains qui ont voulu s'enrichir sont tombés dans les pièges du diable. Je ne crois pas que Dieu est contre la richesse, mais Dieu est contre l'amour de l'argent. Et cet homme qui s'intéressait qu'à lui, que quand il a parlé à ses gendres que Jésus, que Dieu allait revenir, il a cru qu'il blaguait. C'est écrit. C'est où? Aidez-moi à le trouver, ce verset. Voyez au verset 14, on ne l'a pas lu. L'autre sortit, parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles, dont il avait quatre filles au moins. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » C'était sérieux. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Vous voyez, c'était un plaisantin. C'est un gars qui faisait que plaisanter. Ça fait que quand il a été une fois sérieux, ils ont cru qu'il plaisantait. Que c'est triste d'en arriver là. Je crois qu'il y a un temps pour rire, mais quand on en arrive à ce niveau-là, c'est la preuve qu'on a été léger avec Dieu. Et bien voyez, même cet homme léger, même cet homme qui, quand il parlait de Dieu, passait pour un plaisantin, et bien cet homme, Dieu voulait le sauver. Et je vous rappelle, mes frères et sœurs, c'est pour vous encourager, pour vos enfants qui sont très très loin de Dieu, et que Dieu va dépêcher, diriger les circonstances pour qu'ils soient sauvés. Oui, il a été sauvé. Il a été sauvé parce que Dieu l'aimait. Et parce que Dieu vous aime, il veut vous sauver. C'est pas bien de savoir ça? Dieu vous aime. Et Dieu, il veut vous épargner. Il veut vous épargner. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer. Est-ce que Dieu pourrait bénir quelqu'un et l'épargner d'un divorce? Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un qui est en train de mourir, est-ce que Dieu peut l'épargner de la mort? Ben oui. Quand la Bible dit qu'il veut nous épargner, il peut épargner la mort, le divorce, la séparation. Il peut nous épargner bien des larmes. Oui, il est vivant. Il veut nous épargner tous. C'est pour cela que Jésus n'a pas été épargné. Et c'est ça qui nous touche le cœur. C'est que qu'on comprenne cet après-midi qu'au calvaire, lui n'a pas été épargné. Quand Abraham a voulu sacrifier son fils, est-ce que Dieu ne l'a pas épargné? Mais c'est merveilleux. Et on est bouleversé devant cette histoire. Mais quand vous réfléchissez à la crucifixion, Dieu, lui, n'a pas épargné Jésus. Et il a été crucifié. Il est mort d'une mort infâme, d'une mort lente, violente, terrible. Pourquoi? Pour nous épargner à nous. C'est pour ça que sur la croix, il a dit, pardonne-leur. Parce qu'en prononçant le pardon sur l'humanité, il nous permettait de saisir ce pardon et d'être véritablement épargnés. Oui, peut-être que vous dites, ah, mais si j'avais vécu autrement, peut-être que je n'aurais pas vécu ça, peut-être... Écoutez, je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Je ne sais pas les choix que vous avez faits. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais Dieu veut vous épargner. Dieu veut vous épargner certaines choses désagréables par rapport à des choix que vous êtes en train de faire. S'il a fait grâce à Lot, il peut faire grâce à tout le monde. C'est une évidence exacte. Dieu aurait pu choisir quelqu'un de super bien, avec une grande moralité. Non, Dieu est en train d'épargner un homme qui est mauvais, un homme qui aime le péché, un homme qui fait n'importe quoi. Dieu est en train de l'épargner, je vous le répète, parce que son oncle est en train de prier. S'il n'y a que 50 justes, mais s'il y en a 50, eh bien je détruis pas la ville. Comme quoi, mes frères et sœurs, plus il y a de chrétiens dans une ville, plus il y a quand même, je crois, une espèce de bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Que plus il y a des chrétiens dans une ville, plus il peut y avoir un retard du jugement. Oui ou non? La ville de Ninive, elle devait être détruite. Détruite. Ils se sont tous repentis et le jugement a été reporté, je ne sais pas combien, de 150 ans ou de 120 ans, j'en sais rien. Mais ça a duré longtemps. Vous voyez? Parce qu'il y a eu une réaction. Comment réagirez-vous cet après-midi à la parole de Dieu? Comment réagirez-vous par rapport à cette exhortation de ne pas vous relâcher dans la prière pour que vos neveux soient sauvés? Oui, Dieu veut vous épargner. Dieu veut vous bénir. Dieu n'a pas épargné son Fils. C'est pour cela que vous devez dire cet après-midi, je veux le pardon, je veux la rédemption, je veux être prêt, Seigneur, si tu revenais me chercher. Ça ne vous ferait pas drôle de voir une ville comme ça engloutie par les cendres? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Est-ce que la terre peut connaître un déluge? Est-ce qu'un déluge peut revenir sur la terre? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors pourquoi il ne peut pas y avoir un déluge sur la terre? Parce que Dieu l'a dit. Par contre, est-ce que la terre peut être détruite par le feu? Oui. Comment vous le savez? On le lit? On le lit. C'est écrit. Alors, qui c'est qui peut me dire où c'est écrit? Alors, hein. C'est écrit dans l'épître de Pierre. Alors, 2 Pierre chapitre 3. L'épître, la deuxième épître est tout un enseignement sur les derniers temps. On va lire ce texte. Je crois que ça parle tout seul, il n'y a pas besoin de commenter. Il y a besoin juste de réagir. Il dit, mais où j'en suis? Où j'en suis? Avec l'amour de Dieu? Où j'en suis avec la colère de Dieu qui vient? 2 Pierre chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Pardon. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Ça termine bien. Ça termine bien pour ceux qui ont été épargnés. Vous le croyez, ça, qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre? Dieu a créé des milliards d'étoiles. Je ne vois pas comment ça doit être un problème pour lui de créer une terre de plus. Vous ne croyez pas? Un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà le sort qui est réservé à ceux qui vont être épargnés, à ceux qui vont dire, moi je veux que le sang de Jésus-Christ me lave, je crois que le seul moyen d'entrer au ciel, c'est d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, c'est de croire que par sa mort expiatoire, je suis véritablement lavé et affranchi. Voilà comment un homme est épargné, voilà comment un homme sera épargné de ce qui va arriver sur la terre. C'est vrai que ça, vous allez me dire, c'est pour longtemps, c'est après le millénium, mais la colère de Dieu, elle a déjà commencé. Vous ne croyez pas qu'elle a déjà commencé, hein? Alors il est temps de se laisser tenir par la main du Seigneur qui veut vous sortir du jugement. Ce n'est pas géographique, ce n'est pas d'entrer dans une église ou d'entrer dans un temple ou d'être dans un... Ce n'est pas géographique, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec des kilomètres, ça a à voir avec une position spirituelle. Où que vous soyez, vous êtes épargné de la colère de Dieu, si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Oui, Dieu veut vous épargner si vous n'êtes pas sauvé. Et vous, mes frères et sœurs, qui avons dans nos familles des membres qui sont comme Lot, croyez-moi, continuons à persévérer dans la prière. Dieu en sauvera plusieurs, que son nom soit béni. On se recueille quelques instants, hein? On se recueille, on demande au Seigneur de vraiment bénir ces moments. Il y a peut-être quelqu'un qui est là dans le péché, dans les ténèbres, qui est là dans la perdition, qui est là malade. Dieu veut vous épargner. Vous êtes en train peut-être de divorcer. Dieu veut vous épargner un divorce. Je ne sais. Dieu veut vous épargner la mort, la maladie. Oui, laissez le Seigneur vous toucher. Laissez-le, comme on l'a chanté, vous saisir la main pour vous amener dans sa protection. Notre Père, notre Dieu, oui, tu veux épargner les hommes. Toi, tu n'as pas été épargné.
Toi, tu as dû subir la condamnation, la mort au calvaire, la flagellation, les crachats, l'ignominie. Tu as subi, c'est vrai, la lance. Tu as subi l'agonie au jardin de Gethsémané. Seigneur, oui, tu n'as pas été épargné pour que nous le soyons tous lorsque nous nous tournerons vers toi. Seigneur, tu vois ces moments, tu vois cette ville de Toulouse. C'est vrai que rien que le peu d'infos que nous voyons nous enseigne que la colère s'approche, que le monde s'attire vraiment le jugement de l'Éternel. Et nous te prions comme Abraham, oui, pour que nos familles soient sauvées. Nous te prions pour que nos enfants soient sauvés, pour que nos neveux et nièces soient sauvés. Nous voulons persévérer et nous te prions pour que les églises de Toulouse deviennent des maisons de prière où véritablement, comme Abraham, nous approcherons du trône de la grâce pour réclamer que des anges, oui, ou la manière dont tu voudras, puissent à sortir les hommes de ce jugement à venir. Seigneur, que ta volonté soit faite, que dans ce lieu cet après-midi, toi, le Dieu vivant, tu puisses manifester ta vie sur les hommes et les femmes qui sont présents ici. Que ton nom soit béni.